All right, what's up tout le monde? Bienvenue au premier épisode du Bord de Table Podcast avec votre animateur Tudor Illy. Ça fait longtemps que j'avais envie de lancer ce projet-là puis que je reporte. Fait que j'ai finalement trouvé, j'ai trouvé le temps puis l'ambition puis l'énergie pour faire ça. Fait que aujourd'hui, je commence ça avec un de mes très bons amis, si c'est pas le meilleur, Simon Barrette. On va se faire une petite jasette autour de. Parler un peu d'actualité, on veut un peu parler d'un autre projet qui va être sur le podcast. On s'est dit que ça serait une bonne idée de faire ça sur le premier podcast de la chaîne. Nous, on va avoir une espèce de revue d'actualité qu'on va faire ensemble qui va être retrouvable sur la plateforme du bord de table, en fait, les plateformes du bord de table. Fait que, sans plus tarder, j'ai mon invité aujourd'hui, Simon Barrette. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien, toi?
Ouais, ça va pas pire. J'avais finalement hâte qu'on fasse ça. J'avais vraiment envie que le premier épisode soit avec toi, man.
Ouais, ben j'ai bien vu ça, mais je suis bien content. Je suis bien content. Ça va permettre de. Oh, je pense que ça va permettre aux gens de comprendre un peu qui on est, puis après ça aussi de bien comprendre aussi l'autre projet à côté là, qu'on va faire ensemble.
Exact. Puis j'espère que tu es prêt à devenir une star du web, mon chum.
C'est marqué sur mon front et dans mon dos, bien sûr.
C'est ce que tu désires le plus.
Oui.
OK. Ben honnêtement, c'est ça. Le projet qui va être en parallèle, en fait, qu'on est en train de discuter, c'est une revue d'actualité que Simon et moi, on va faire sur, comme je l'ai dit dans la petite intro, sur les différentes plateformes où je vais mettre le podcast, tu sais, peut-être une fois aux 3 semaines, une fois au mois, on va prendre des sujets d'actualité, puis on va les discuter ensemble, différents points de vue, puis ça va être, on va essayer d'amener une optique un peu nouvelle sur même ce que Le Devoir ou ailleurs à l'international, ils peuvent amener comme point de vue.
Ouais, l'objectif, en fait, c'est de partager des trucs qui nous touchent, t'sais, dans l'actualité. Puis je pense qu'on a des intérêts qui convergent, mais aussi qui divergent à certains endroits. Puis c'est un peu de pouvoir partager ces intérêts-là ensemble, mais aussi avec les gens qui nous écoutent. Puis ça va être de discuter de ça, puis de réfléchir là-dessus. En fait, là, ça va être vraiment des réflexions ouvertes. T'sais, on ne se prend pas pour des experts de chaque question qu'on va traiter, mais vraiment plus. Pour des citoyens qui réfléchissent aux différentes questions que ces articles-là posent, par exemple.
On pourrait dire qu'on est des citoyens. On est des citoyens éveillés, man. Un peu comme nos grands amis anti-masques. On est des pas pires illuminés, nous autres.
Sais pas.
Hey,
Tu peux
man,
te revendiquer.
Hey, dude, j'écoutais ça l'autre jour, hein. J'écoutais comme quand il y avait une espèce de montée des cas vraiment plus accentuée. Ben quoi, pas que la montée est terminée, là, parce que on est
Non.
quand même dans une. On n'est pas pire dans la deuxième vague là, de tout ce coronavirus, là, mais je pense que c'est vendredi passé, j'écoutais ça, puis l'espèce de adjointe politique, je pense, ou comme représentante de la CAQ, je pense que c'est Geneviève son nom, elle s'est fait demander justement une question par quelqu'un de la presse, c'était comme vous pensez que c'est plus la réouverture des écoles, les manifestations anti-masques ou les bars? Qui cause problème avec la nouvelle montée des cas. Puis j'étais comme, elle a donné une réponse de porte-parole, de communiqué politique. Puis t'es comme, ben nous, on n'est pas la santé publique, fait que je peux pas vous donner de réponse. Nanana. Come on, man. Genre, t'as 3 500 personnes qui marchent dans les rues de Québec il y a 3 semaines, un mois, ils portent toutes pas de masque. Écoute, je suis pas expert en santé publique, là, mais genre, je suis comme pas mal convaincu que ça aide pas, hein? Jumelé avec comme la majorité de ce monde-là qui vont peut-être envoyer leur kid à l'école, puis ils sont juste comme on s'en calisse du coronavirus. Fait que tu sais, le kid, un, il doit pas mettre de masque, puis deux, ses parents s'en foutent. Parle-moi d'une bibitte de propagation énorme que cet enfant-là devient avec à ce moment-là, tu sais.
Oui, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, non, ça ne veut pas dire nécessairement que le coronavirus ou tu sais, l'émergence est due à ces manifestations-là, mais clairement, ça crée un climat où est-ce que. Puis, on parle beaucoup tu sais, des anti-masques. Puis, ça crée un climat où est-ce que les gens se viennent à se dire, ben, comme, rendu là, c'est quasiment croire ou non au coronavirus, ça devient une opinion comme un autre. Puis c'est là qui est dangereux parce que ça fait en sorte que certains comportements, comme on a vu par exemple au bar Kerouac à Québec, avec le karaoké qui a comme donné, qui au final a fait, je pense, c'est 80 cas, quand on compte tous les cas qui ont suivi.
C'est
50
ça,
le premier. Là.
Le 80 cas, c'était vraiment comme, OK, le monde qui était là, qu'est-ce qu'ils ont propagé, puis boum, on a réussi à séquestrer ça un petit peu. C'est pas comme il y a 80 personnes dans le bar qui ont pogné ça puis qui sont partis après.
Non, non, non.
Okay,
je ne m'en rappelle plus exactement le nombre de personnes. Je pense qu'il y a autour d'une cinquantaine dans le bar qui l'ont pogné.
OK,
après ça, je pense que c'était 47. En tout cas, c'est pas vraiment important. Là. Le
non,
point
non.
étant que il y a eu une activité de karaoké. Les mesures de santé publique n'ont pas été respectées. Puis ça a fait en sorte que des gens se sont transmis le virus. Puis par la suite, ces gens-là l'ont transmis à peut-être leurs enfants, etc., etc. Puis là, ça fait des éclosions après ça dans les écoles. Tu sais, je veux dire, c'est une réaction en chaîne par
Mais
la suite.
C'était le truc du parc Kerouac, je me rappelle pas exactement, c'était quand. Les écoles avaient-tu réouvertes? Étaient-tu réouvertes à ce moment-là?
Je pense que c'était juste un peu avant parce qu'il me semble que c'était avant septembre.
OK.
C'était fin août, mi-août, là, mais ouais, c'est ça. C'était comme. C'était dans le coin que les écoles allaient réouvrir. Là.
OK.
C'était avant. En tout cas, à Québec, c'était avant. C'est vraiment l'élément. Ben, ça ne veut pas dire que tous les cas de coronavirus à Québec sont dus à ça, là, mais c'est un des. Ça a été l'événement déclencheur. À partir du bar Kerouac, puis
Ouais.
De cet événement-là, à partir de là, ben, il y a eu plein de cas à Québec. Puis en ce moment, ben, c'est la folie furieuse. On n'a
Ben.
jamais eu autant de cas à Québec
Ouais.
en ce moment.
Ben, je sais pas c'est quoi, en ce moment, on est à quoi? On est à 200 cas à Québec, à peu près?
Par jour,
Là.
Je pense qu'on est encore à peu près autour d'une centaine de cas. Mais tu sais,
OK, ça va quand même.
Ça va, mais quand tu le remets en perspective, au plus fort de la pandémie, en mai dernier, on était à
OK.
60-55 cas. Là. Donc, tu sais, c'est comme l'écart est
Oh.
très grand.
OK, c'est quand même deux fois
Puis,
plus, ouais.
j'entendais à la radio l'autre fois qu'en une semaine à Québec, c'était à Radio-Canada, il disait qu'en une semaine à Québec, on a eu un cinquième des cas depuis tout. Depuis que le coronavirus a débuté, tous les cas de Québec, en une semaine, c'est un cinquième. C'est 20 % des cas. C'est 500
Wow, OK.
quelques, 580, je pense. Donc, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement à Québec qu'il n'y avait pas à la première vague du fait que ça se passait peut-être... c'était plus concentré à Montréal, en Estrie, puis en Montérégie.
Ben, d'autres, clairement, man, genre, la grande majorité des bars, en fait, ceux où j'ai pu aller m'asseoir puis prendre une bière, puis tout, comme... Oh. Plexiglas, des masques, des machines recouvertes, des lunettes, des gants à la limite pour certains. Tu sais, comme, je pense pas que c'est vraiment là le problème. Moi, ça m'est arrivé de comme, je me suis levé, j'ai oublié de mettre mon masque pour aller aux toilettes. Puis, OK, je reviens, mets le masque. La fille est comme, hey, thanks d'avoir mis ton masque parce que, tu sais, on essaie de pas trop jouer à la police, mais comme, on fait ce travail-là aussi dans notre établissement. Tu sais, fait que, il y a aucun propriétaire qui... T'sais, c'est clair que si tu regardes le Kerouac ou un bar à Laval, il y a comme 3 jours où il y avait 200 personnes debout, pas de masque, genre. C'est décrissant, mais en même temps, il y a tellement... Genre, c'est des établissements qui ont déjà une marge de profit relativement pas faible, mais qui... C'est pas... Il y a certains bars qui génèrent un gros revenu, tu sais. Mettons plus des bars comme à Montréal dans certains endroits, mais comme... À Québec, ça roule pas sur l'or en tant que tel, un bar. Là, ça peut pas se permettre de refermer une deuxième fois en 6 mois. Tu sais, il y a personne qui a d'intérêt à faire comme nous. On s'en calisse de 50% moins de personnes. On baisse pas notre monde puis on ferme dans 3 semaines. Wouh! Non. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai de la misère un peu comme avec l'intervention policière qu'il y a eu cette fin de semaine où ils ont comme gros feu d'artifice de la part du gouvernement. Ah ouais, on a visité 2000 établissements, blablabla. Puis je suis juste comme, OK, ouais, mais t'es-tu déjà promené à Montréal dans les rues autour de 8h30 le matin puis regarder une cour d'école où t'as 150 jeunes pas de masque qui jouent à tag puis qui se poussaillent en attendant de rentrer dans l'école. Comme à la limite, je veux bien croire que c'est du monde un peu pacté dans un bar à passer 11 heures qui vont commencer à se rapprocher, mais veux pas, il y a des mesures de distanciation dans le bar, des mesures de protection. 150 kids dans une cour d'école. Mais c'est juste que ça paraît mieux de la part du gouvernement en termes de gestion de faire comme « Ouais, on a visité 2000 établissements puis on a sanctionné. » Mais tu sais, je regarde ça puis c'est pas rare que je passe à côté... OK, je veux pas que ça sonne weird. C'est pas rare que je passe à côté d'école. Mais genre, tu sais, comme je sais pas, je m'en vais faire mon épicerie, je m'en vais faire du bike, tu sais, puis je passe à côté d'une ou deux écoles dans mes runs. Puis genre, puis même à Québec dernièrement, c'est la même chose, tu sais. C'est juste plein de jeunes qui se poussent puis tout, puis les profs sont juste comme ben comme qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Ouais. Je comprends.
J'ai un malaise, mais c'est juste que j'ai un malaise par rapport à. J'ai l'impression qu'il y a une certaine. Puis c'est peut-être parce qu'ils n'en parlent pas aux nouvelles, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de communiqué par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine inaction par rapport à la situation dans les écoles. Encore là, il y avait un headline, Il y avait une manchette la semaine passée que c'était 22 écoles, 23 écoles qui ont fermé à Montréal, 12 en Laval ou je sais pas combien à Québec, tu sais. Comme, il n'y a pas autant de bars qui ont dû fermer, là.
Non, c'est sûr, mais tu sais aussi, c'est très différent, tu sais, le contexte est très, très, très différent au sens où est-ce que c'est pas la même clientèle non plus, là, tu sais, on s'entend que là,
non.
C'est des jeunes, puis de l'autre côté, c'est des adultes. Qui est peut-être, dans certains cas, plus conscient, je dirais, des impacts que la contamination peut avoir à l'échelle globale. Puis, en fait, c'est juste que... Je comprends le malaise que tu as au sens où est-ce que, clairement, quand les jeunes ils sont ensemble puis tout ça, ça peut être un climat qui favorise la propagation du virus. Là, ça, c'est clair.
Puis, de l'autre
côté, je suis aussi d'accord avec toi que, tu sais, quand je pense qu'il y a des éclosions dans des établissements comme des bars ou des restaurants, clairement, c'est pas l'objectif de ces établissements-là. C'est pas leur objectif de créer une éclosion. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais des fois, ça arrive pour différentes raisons, puis c'est pas nécessairement de leur faute. Puis de l'autre côté, je pense qu'en ce moment, c'est pas. Tu sais, la santé publique est très. Ben, la santé publique. En fait, le gouvernement dit que le problème, c'est pas nécessairement ce qui se passe dans les bars puis dans les restaurants. T'sais, oui, il y a des choses qui se passent qui sont pas... Oui, il y a des trucs qui sont pas respectés dans ces établissements-là. Mais le gros problème actuellement de ce que je comprends, c'est principalement au niveau des rassemblements privés. T'sais. C'est là qu'il y a le plus de contamination. Puis c'est surtout le fait que... du fait qu'on... On permet puis qu'on accepte les rassemblements privés, bien, chaque personne voit plus de gens. Et donc, la possibilité de propagation, elle est augmentée par le fait même. Donc, c'est ça qui est problématique au final. C'est pas nécessairement le fait que... je veux dire, si on voit des gens, mais qu'on voit par la suite très peu de personnes, toi, tu es infecté, mais tu infecteras pas beaucoup de personnes par la suite. Tandis que maintenant, je pense qu'il disait la différence, c'était que en mars, mai, c'était autour... Quand une personne était infectée, ils voyaient en moyenne 3 à 4 personnes. T'sais, donc, le réseau était facile à faire, à savoir ces 3 à 4 personnes-là pourraient peut-être avoir la COVID.
Okay.
Maintenant, en ce moment, c'est chaque personne qui le pogne, en moyenne, c'est 10 à 12 personnes qui voient. Donc là, tu viens de tripler les chances. T'sais. Donc, ça, c'est,
mais la
contamination va être exponentielle. T'sais, c'est ça. Ça va être encore plus grand peut-être. Possiblement que ce qu'on a vu au printemps.
T'sais. Mais tu sais, mettons, voir des personnes. Moi, je sais pas qu'est-ce qui rentre dans voir des personnes en ce moment. J'ai comme souvenir que voir des personnes au printemps, ça voulait aussi dire, mettons, ta caissière à l'épicerie comptait pour une personne que tu avais vue.
Peut-être, mais tu sais, je pense que.
Parce que,
je pense que clairement, ces personnes-là comptent encore, au sens où est-ce que c'est des personnes qu'on côtoie, peut-être pas régulièrement, mais je veux dire, si tu as un contact qui est plus ou moins qui est plus, que tu es plus ou moins protégé, mais tu peux mettre en danger, mettons, cette personne-là, puis ça non, peut être.
Je dis pas, mais je dis mettons que là, on parle que c'est 10-12 personnes avec qui on est en contact, mais par exemple, si c'est les mêmes modalités qu'au mois de mars, au mois d'avril, Ben, comme vous veux pas, la caissière elle a un masque, moi j'ai un masque. Le gars ou la fille qui est à la station d'essence, c'est la même chose, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu vois 10 personnes, toi, tu as le COVID, puis les 10 personnes, tu les as vues en contact où il n'y a pas de masque, puis on se fait la bise, ben là, ça, c'est problématique en tabarnouche, tu sais. Mais en même temps, c'est juste histoire de relativiser. Comme moi, je comprends qu'il y a avant, c'était 3-4 contacts, mais en même temps, tu sais, live, si c'est 10-12, mais sur les 10-12, il y en a comme 6 qui sont masqués des deux côtés, ben, comme, ouais, sure, comme c'est plus long à remonter la chaîne. Puis je pense que c'est ça, en fait, le gros truc. C'est que c'est long à remonter, puis il y a du monde qui ne répond pas à leur téléphone. Tu sais, comme...
Ouais, c'est ça. Mais tu sais...
C'est décalissant, genre.
Ouais, mais il y a... Vas-y, excuse-moi.
Non, mais je trouve ça décalissant. Moi, quand je suis allé me faire tester, on m'a dit, on t'appelle si c'est positif. Hey, tu peux être sûr que je m'en fous si le numéro il venait. Je m'en foutais si le numéro il venait de la Colombie-Britannique. J'étais comme, hey man, d'un coup que le boîtier téléphonique est là-bas pour une raison fuckée, je vais le répondre à mon téléphone. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. T'sais. Je répondais à tous mes numéros. Là, j'entends des affaires de comme. Je sais pas si qui disait ça aux nouvelles. T'es genre, ouais, moi, mon gars, quand il voit un numéro masqué, il répond pas. Puis si, pis ça, hey yo, ma mère, elle est pas encore sûre de comment se servir d'un téléphone comme il faut. Puis la moitié du temps, elle m'appelle avec un numéro masqué, tu sais. J'y réponds pareil. Je sais pas. Tu sais, comme pourquoi ouais, tu répondrais pas quand on, surtout quand on t'a dit, puis qu'on est dans cette situation actuelle-là. Hey, réponds à ton téléphone, on va t'appeler si t'es positif. C'est quoi, tu veux vivre dans le déni 2 jours de plus comme un moron, là?
Ouais, c'est ça. Ben, c'est important de, c'est ça, de suivre les consignes dans ce cas-là, puis de répondre à son téléphone, ce qui est
ben, je sais.
Non, mais la moindre des choses dans ce genre de cas-là. Là. Mais.
Je m'emballe un peu, mais c'est juste.
Je comprends. C'est absurde, tu sais, au sens où est-ce que quand t'attends quelque chose d'aussi important. Tu sais, c'est important que toi aussi tu fasses que tu prennes ta responsabilité qui n'est pas si grande que ça à ce moment-là, qui est en fait Allô? De répondre au téléphone pour savoir, puis à la suite de suite à ça, ben de rester chez vous confiné pendant le 2 semaines là, qu'on recommande.
En tout cas, je sais pas.
C'est une grosse affaire, ça, là, puis on va voir tout ce qui se passe avec ça, mais c'est bien intéressant, mais je pense que les gens, on entend beaucoup parler de la COVID en ce moment, puis tout. Fait que je pense que ce qu'on va faire ensemble aussi, ça va être de peut-être mettre la lumière sur certains trucs autres aussi que la COVID. Puis ça fait du bien des fois d'entendre parler de d'autres sujets puis de d'autres débats aussi. Là,
tu veux dire toi et moi sur notre petit
ouais, 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 sur notre projet, ouais.
Ben ouais, moi j'aimerais ça que justement là-dessus, on parle pas seulement de la COVID-19. Là. Live, je t'avouerais que je suis primé puis je suis starté là-dessus parce que je vois plein d'aberrations. Autant de la part du gouvernement que des dérives de santé publique, puis comme tu sais, sur la place médiatique, par exemple, je trouve que, mettons, le mouvement qui questionne les actions du gouvernement, c'est tout de suite, c'est comme, ah, OK, tu te poses des questions, c'est ça, t'es un conspirationniste. Puis, je trouve que, puis c'est ça que, genre, j'aime avec toi, c'est que on est vraiment capable de, ensemble, quand on discute, on est capable de relativiser sur certaines choses, tu sais. Parce que j'ai l'impression que tout de suite, puis tout même sur Facebook, peu importe, tu sais, c'est tout de suite comme, ouais, tu sais, mettons, t'as juste une personne qui est juste comme, hey, je trouve que le gouvernement va un peu trop loin, puis ça met mal à l'aise. Comme, je suis d'accord avec sa mesure, mais je suis comme, je suis pas sûr à 100%. Tu sais, on dit comme, c'est quoi, tu crois pas au COVID, est-ce? Puis c'est juste comme, oh man, comme la personne, elle se pose des questions, là. Elle a le droit, là. Même si c'est recommandé, tu sais.
Mais c'est parce que, ben, tu sais, c'est un autre débat aussi, mais Facebook n'est pas nécessairement une plateforme qui est faite non plus pour. T'sais, pour les questionnements non plus en général. C'est une plateforme qui c'est de la confrontation, c'est mon idée contre la tienne, puis je vais montrer.
C'est de l'auto-validation aussi.
Il y a ça aussi. Donc, c'est ça qui est. Les réseaux sociaux sont pas nécessairement la meilleure place pour faire ça. C'est ça qui est intéressant aussi avec un podcast parce que on discute, on élabore sur les idées, on élabore sur notre pensée. Puis c'est important de le faire, puis je pense aussi de. Puis. Je pense que les deux, on est capable de, de prendre en compte les différents points de vue puis d'être capable d'identifier peut-être des trucs qui sont intéressants d'un bord puis de l'autre, tu sais, puis de voir. Tu sais, sans dire qu'on... T'sais, en fait, c'est juste de dire, de mentionner peut-être les éléments qu'on trouve intéressants puis voir aussi notre réflexion par rapport à ça, là, tu sais.
Moi, je vais le dire d'avant, je suis pas mal plus épais que toi, mais...
Ça dépend quand.
Ouais, ça dépend des bouts, là. Mais non, mais ouais, je suis d'accord, man. Puis comme... Ouais, ben c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent encore jusqu'à ce point-là, vous êtes vraiment cool. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment le ça va être vraiment quelque chose à part que Simon et moi, on va faire. Là, puis, exact, c'est ça. Mais d'un autre point de vue, toi, tu vis ça comment en fait? Comme ta vie depuis le coronavirus, depuis le mois de mars?
Ben, je te dirais que c'est mélangé, là. Tu sais, c'est. D'un certain côté, c'est pas. Ça change certains trucs, clairement. Pas tant que ça, au sens où est-ce que je suis quelqu'un qui reste beaucoup à la maison. Tu sais, je travaille de la maison, je fais l'école de la maison, déjà bien avant que la COVID arrive. Puis, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup non plus. Tu sais, j'aime ça rester chez moi. Donc, ça fait en sorte qu'à ce niveau-là, ça. Tu sais, oui, ça a apporté des modifications, mais pas tant que ça. Ça a été dur plus sur le moral pour différentes raisons, tu sais, niveau sportif, parce que moi je me préparais pour faire des différentes compétitions, fait que tu sais, tout a comme shut down d'un seul coup, puis c'était comme pas clair qu'est-ce qui allait arriver, donc là la motivation pour ça, je l'ai comme perdu, puis là en même temps, ben c'est quand tu perds une motivation, aussi tu perds la motivation pour d'autres choses, donc là c'était difficile à l'école aussi de faire mes choses, tu sais, je veux dire, en fait, j'étais à la maîtrise, fait que si je fais une maîtrise avec mémoire, fait que si je fais pas mes affaires, ben mes cours, ben pas mes cours, mais je dirais ma recherche à moi, elle avance pas tant et aussi longtemps que moi, je me mets pas dedans. T'sais, c'est pas comme si je t'au. Si quand j'ai un cours, mettons, quand je suis au bac, si tu as un cours, même si tu ne mets pas ton temps dedans, ben le cours il avance pareil, puis à la limite, ben tu fais ton examen, tu essaies, puis. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Mais là, à maîtrise, si tu mets pas de temps, oublie ça, il n'y a rien qui avance. Tu sais, c'est ça la différence aussi. Là.
Mm-hmm.
Fait que, généralement, c'est ça. Mais, tu sais, ça fait du bien quand on a pu aller voir des gens, puis tout ça, tu sais, ça nous a permis, moi et ma copine, d'aller voir notre famille, puis tout. Fait que ça, c'était vraiment le fun, puis on était vraiment contents que ça arrive. Mais là, on s'attend, en tout cas, moi, personnellement, je m'attends à ce que ce soit difficile dans les prochaines semaines parce que Québec risque de tomber dans la zone rouge. Puis du moment qu'on tombe dans la zone rouge, bien, les transports interrégionaux, ça risque d'être aboli en quelque sorte. Là,
OK. Mais ouais, c'est ça, cette zone rouge-là, ils vont vraiment... Tout transport interrégional à ce moment-là, ça va être terminé, sauf si c'est vraiment urgent puis pour le travail, genre.
Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas exactement, là. Honnêtement, tu sais, j'ai pas fouillé plus qu'il faut la question, mais de ce que j'ai vu que c'était dans un des impacts, là. Un des impacts de qualifier une zone comme étant une zone rouge. Le transport interrégional allait être réduit, clairement, là, tu sais.
OK. Puis toi, mettons, quand ils ont annoncé le confinement, ça faisait. Puis jusqu'à ce que tu puisses retourner voir ta famille, admettons, il y a eu combien de temps entre les deux?
Peut-être 3 mois, je pense.
Fait que t'as passé comme 3-4 mois sans voir ta famille.
Ouais, 2-3 mois. Mais tu sais, c'est sûr que moi, la différence aussi, c'est que je vis avec ma blonde. Fait que, tu sais, j'ai pas la solitude en tant que telle. Moi, j'ai eu la chance de pas vivre ça au sens où est-ce qu'on était ensemble. Donc, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est très différent de plusieurs autres personnes qui, eux, c'est comme tu peux pas vraiment bouger de chez toi, t'es pogné chez vous, puis t'es tout seul chez vous. Tu sais, ça, c'est très intense. Là.
Hey, dude, genre, je veux même pas imaginer c'était quoi, c'était comment pour la santé mentale des personnes qui, par exemple, habitent dans un studio ou dans un 1,5. Avec genre un pas de balcon ou un balcon commun, gros comme pas possible, genre. Tu sais, comme. Mais c'est sûr que t'as eu des frictions avec ta copine, je peux pas. Tu sais. Je veux pas. Non, c'est pas vrai. Je pousserais pas le fait que t'as eu des frictions, mais tu sais. avez-vous eu des petits accrochages pendant ça, puis tu sais?
Ben, tu sais, je pense que oui. Tu sais, honnêtement, j'ai pas eu des... pas un accrochage dans le style, genre, je m'en rappelle, puis comme ça
Pas genre
traîne
tu l'as
encore,
poussé en
là.
bas, tu sais.
Ça aurait
Tu t'es
été dur, mon
accroché,
pied au
man,
rez-de-chaussée.
à débouler les marches, tu sais, c'est comme, elle est tombée, là.
Oh. Non, pas vraiment. C'était pas mon objectif. Non, c'est pas ce qui est arrivé, vraiment.
Elle retourne
Mais...
voir sa mère avec un œil au beurre. Non, je suis tombé.
Ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est pas si drôle que ça, là.
Non, c'est vraiment pas tant drôle,
C'est
ces
pas
blagues-là,
drôle, là.
excuse-moi.
Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais honnêtement, non, on n'a pas eu ça. Et de ce que je me rappelle, on n'a pas eu des grosses frictions. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, c'était différent au sens où est-ce que là, on tombait à... On vivait comme, t'sais, vraiment tout le temps ensemble, mais c'est pas un truc qu'on trouve désagréable non plus. Puis l'autre affaire qui, pour nous, était, je dirais, avantageuse en quelque sorte, c'est que ben, elle était en fin de bac. Fait qu'elle avait, tu sais, ça faisait en sorte que même si on vivait dans la même maison tout le temps, ben, fallait les deux qu'on travaille sur nos affaires séparément. T'sais. Donc, c'est un peu comme, même si on est à la même place en même temps, ben, on était comme, tu sais, c'était quand même très similaire à ce qu'on vivait avant, au sens où est-ce que on était séparés, on revenait ensemble, c'était comme pour faire nos affaires. Donc, ça n'a pas. Je pense que ça a bien été, généralement, mais tu sais, oui, ça crée des frictions, c'est sûr, là, tu sais.
Ah, tu penses-tu que ça a été différent si, mettons, elle, si, mettons, toi, tu avais été à la maîtrise, puis tu aurais dû faire ta recherche, puis, mettons, elle aurait perdu sa job, genre, mettons, tu sais, comme moi, je travaille dans un resto, puis j'ai perdu ma job, genre. Puis elle aurait pas eu d'école, elle aurait perdu sa job, puis elle était, boum, 100% du temps à la maison, mais toi, faut que tu fasses ta maîtrise, genre, mais elle est juste comme, OK, comme, qu'est-ce que je fais, genre?
Ouais. Ben,
Comme
peut-être.
j'ai l'impression que ça l'amène une autre couche de gestion si les deux vous êtes pas sur la même page à ce moment-là, genre.
Ouais, puis une forme de pression, je pense, que ça peut amener. Mais, tu sais, c'est sûr que ça aurait amené des problèmes différents. Il en reste que, tu sais, c'est une personne qui est très compréhensible, tu sais, ma copine, fait que t'aimes, elle comprend
Ah ouais,
que...
vas-y, flatte-la dans le sens du poil, elle va l'écouter, le podcast.
Ben, faut bien. Non, mais honnêtement, je suis très honnête quand je dis ça, c'est vrai, là, tu sais, c'est quelqu'un qui est extrêmement... Elle est très compréhensive, elle comprend que je dois faire mes choses, que je dois... Puis elle aussi, elle fait ses choses, mais c'est sûr que... Mais comme c'était le cas aussi... L'autre fois, même si on faisait nos affaires chacun de notre bord, ben à un moment donné, c'est important de se retrouver puis avoir des moments ensemble, tu sais, parce que c'est lourd, là. Sinon, c'était comme tout le temps ensemble, mais jamais ensemble en quelque
Ah,
sorte.
c'est clair. Je veux même pas
C'est bizarre,
imaginer,
mais
man.
non, ça, honnêtement, nous autres, je pense que ça a quand même bien été. Puis une des conséquences en quelque sorte de la COVID, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais bien chez moi. Grossièrement, moi, c'est le plus gros avantage qu'on a eu, c'est que, tu sais, on vit dans un endroit qui est assez grand pour nous, qui fait en sorte qu'on peut être bien les deux, puis tout ça. Puis ça vraiment, c'était cool pour ça. T'sais, si on n'avait pas été dans un endroit agréable pour vivre, ben clairement, on l'aurait ressenti lors de la COVID. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vécu ça parce que ils disaient à Québec, mais je pense que dans d'autres régions du Québec aussi actuellement, il y a ça. En ce moment, il y a une augmentation des ventes immobilières. Les gens, ils
Ouais.
cherchent des maisons plus qu'avant parce que après avoir vécu ce confinement-là, par exemple, avec des enfants dans un plus petit appartement, ben là, ces gens-là, ils se rendent compte que ils veulent plus vivre ça, fait qu'ils doivent, ils ont envie d'avoir un espace peut-être plus grand à ce moment-là, t'sais.
Mais tiens, en même temps, je veux juste relativiser ça, c'est aussi genre, ouais, les gens ils veulent des espaces plus grands, mais c'est aussi les gens ils veulent quitter la ville. Fait que c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la vente des propriétés puis des maisons. Parce que les gens,
Ouais.
ils sont. Tu sais, les gens, ils vont pas se pogner un appart à Stoneham, là. Ils vont mettre un 20-30 000 de plus, puis ils vont s'acheter un terrain, tu sais. Tu sais, tant
Ben,
qu'à faire le step de déménager un petit peu plus loin de la ville, puis de peut être en appart, tu sais.
je pense que clairement, il y a ça là-dedans. Maintenant, tu sais, moi, les données, moi, que, en tout cas, de ce que j'avais entendu parler, c'était vraiment dans la ville de Québec. Donc, tu sais, c'était vraiment des gens qui partaient de la ville pour aller en ville, en quelque sorte. T'sais,
En
il en reste que
banlieue.
Québec, c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, il en reste que Québec, il y a des endroits qui sont plus ville, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus banlieue. Donc, tu sais, tu peux partir du centre-ville puis déménager dans un coin comme plus quartier résidentiel. Donc, tu sais, ça... Donc, je pense que tu as raison au sens où est-ce que clairement, il y a un mouvement de comme on s'en va de la ville un petit peu. Puis de l'autre côté, ben, il y a une autre donnée qui est on veut plus d'espace qu'on avait avant parce que là, c'était un peu intense, tu sais, pendant le confinement.
Mais c'est fou ça, man. C'est genre, tu sais, pour habiter à Montréal, c'est malade à quel point la pandémie, ça te fait remettre en question l'intérêt d'habiter dans un grand centre. Puis, tu sais, avant, quand j'habitais à Québec, je considérais que Québec, c'était quand même, c'était un grand centre. Puis quand les gens me disaient, oh, Québec, c'est un petit village, puis c'est comme, mais non, man, c'est une ville, Québec. Fuck non, man. Fuck non. Tu sais, comme, c'est fou à quel point je faisais du vélo, moi, de fin avril, début mai à Montréal, puis j'étais comme, ça me faisait capoter à quel point il y avait, tu réalises à quel point il y a du monde dans cette fucking ville-là, genre. Puis Québec, comme, mi-mai, fin mai, tu te promenais au centre-ville de Québec, tu étais comme, OK, y a-tu vraiment quelque chose qui a changé, genre? Y a-tu vraiment quelque chose qui a changé? Tu peux, tu sais, en termes de monde dans la rue, comme, ouais, OK, il n'y avait pas de commerce, pas de restaurant, mais genre, la moitié de la ville était en ville, c'est plein d'Abraham, puis ça voulait jouer dehors, tu sais.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que je pense que Québec, ça reste une ville. C'est très différent de Montréal. Par contre, tu sais, c'est pas une métropole. Ça reste c'est un centre urbain, mais c'est pas une métropole. Mais, puis, tu sais, aussi, là-dedans, tu sais, la situation au Québec est tellement différente de celle de Montréal aussi que,
C'est sûr.
je pense que les gens, puis c'est normal, ils traitaient pas la situation de la même manière à Montréal ou à Québec, tu sais. À Montréal, il y a tellement eu de personnes qui sont décédées de tout ça que ça, là, t'sais, que ça change l'ambiance nécessairement de la ville. T'sais. Tandis qu'à Québec, c'était, t'sais, il y en a eu des décès, il y en a eu des cas, mais c'était tellement moindre que c'est pas pareil. C'était ça, c'était différent. Puis, t'sais, de l'autre côté, moi, j'ai jamais vécu à Montréal, donc je connais moins, t'sais, je connais moins la situation. T'sais, je veux dire, j'habitais pas loin. Fait, je connais Montréal. Je connais un peu les quartiers, mais de là à dire que je connais la vie à Montréal, moi, je peux pas. Pas de commentaire, comme on dit.
Ah, je comprends, man. Vas-y,
Mais
même.
c'est ça. Fait, tout pour dire que je pense que c'était différent, t'sais, comme tu le mentionnais à plusieurs reprises, là, que c'était pas pareil. T'sais. Mais je pense aussi que c'était logique que ce soit différent puisque les
Ben, c'est
situations étaient
sûr, là,
différentes.
l'aspect métropole, c'est changeant. Comme les gens, surtout, tu sais, Montréal, surtout, mettons, dans les si t'as déménagé comme moi, dans les 2 à 3 dernières années, t'as vraiment. Comme. Tu savais que si tu déménageais à Montréal, t'allais payer comme. Dépendamment de ton logement, mais tu sais, pour un 4,5, tu pouvais payer un 200-300 pièces de plus qu'à Québec. Puis pour un studio, pour un 2,5, un 100 pièces aussi. Tu sais, comme toutes les loyers étaient plus chers, mais tu sais, t'avais le trade-off, l'échange que t'avais, c'était de vivre dans une métropole avec des sphères culturelles intéressantes, puis des restaurants, puis des activités, puis du fun, puis du monde de partout, tu sais. Puis, ben, tout ça, tu remets ça en question pendant la pandémie, puis cette année, tu vois, comme Montréal, c'est la première année depuis, je pense, hey, je veux dire, 20-25 ans, où il y a une baisse démographique, qu'il y a plus de monde qui. En fait, que la ville est dans un négatif. Puis je suis juste.
Donc, il y a plus de monde qui part de la ville que de monde qui rentre dans la
Ouais.
ville. Ouais, je comprends ce que tu veux
Puis
dire.
je sais pas si ça l'inclut. Je pense que c'est juste comme d'un point de vue démographique, puis ça n'en prend pas en compte, mettons, les naissances puis les décès. Je pense que c'est vraiment juste comme personne qui rentre, personne qui sort. Je pense qu'il y a un déficit de genre 27 000 personnes cette année. C'est du jamais vu dans les 20 dernières années, tu sais.
Ouais, toi, tu parles de la migration.
Ouais. Ouais.
Ouais, je pense que c'est ça, le terme.
Puis Mais est-ce que je suis content? Je suis content parce que j'espère que cette migration-là va continuer. Puis j'espère que les gens qui sont à Montréal, puis qui font de l'investissement immobilier à Montréal, puis qui skyrocket le prix des logements, qui ont déjà beaucoup de sous, puis qui déménagent à Montréal pour bien vivre avec beaucoup de sous, j'espère qu'ils vont juste faire comme, ben ouais, Montréal, c'est mort, puis qu'ils calissent leur camp à Toronto ou ailleurs, puis rendu là, c'est plus mon problème, le marché immobilier de Toronto, ça me concerne plus, là. Mais ouais, parce que clair, déjà là, sur des groupes de logements, puis sur Kijiji, dans les dernières semaines, j'ai vu des baisses relativement importantes au niveau des loyers. Parce
Ouais,
qu'il y
mais
a tellement de personnes qui sont parties de la ville.
ça, c'est le fun pour la population, t'sais, pour les gens qui vivent à Montréal puis qui restent pour différentes raisons, là, t'sais, clairement, parce que il y avait ben, pas une exagération, mais c'était rendu très dispendieux les loyers à Montréal, là, t'sais.
Je pense que le loyer moyen pour une chambre, fait que mettons un 3,5. Je sais pas quand ils disent one bedroom apartment, je suis plus sûr s'ils incluent, mettons, les studios parce que ça compte comme une chambre. Mais en tout cas, ce qui est considéré comme one bedroom apartment, je pense que le loyer médian à Montréal, c'était genre 1300$. 1390, genre.
Média.
Ouais.
Ah
La moyenne, en fait.
ben. OK. Mais c'est gros, c'est énorme. Là.
C'est
Mais tu sais, c'est sûr
énorme.
que la moyenne, ça. Tu sais, la moyenne est. Ben, pas plus. Tu sais, je veux dire, c'est intéressant, mais pas tant que ça en même temps parce que tu sais, tu peux avoir ce genre de prix-là dans des immeubles, tu sais, des gros immeubles luxueux, puis ça va te coûter, je sais pas, moi, 2 000 par mois.
Ben, en fait, c'est un peu. Ben oui, en fait, t'sais, c'est sûr que la moyenne à Montréal, elle vient beaucoup de ça avec. T'sais, si tu regardes sur l'île, pas sur l'île Sainte-Hélène, mais sur l'île des Sœurs, puis tu regardes Griffintown, c'est juste comme des tours à condos, puis je pense que la moitié sont vendues, puis l'autre moitié, c'est juste comme de l'investissement immobilier, puis de la spéculation immobilière, puis c'est ce qui jack les prix à Montréal, tu sais. Juste dans Hochelaga, man, de 2018 à 2019, je pense que l'augmentation moyenne des loyers, c'était quelque chose comme 40%, tu sais. Même si tu regardes par quartier, tu as une augmentation super marquée de ça, puis c'est
Clairement.
décalissant, là. Tu sais, comme.
Clairement.
J'écoutais, puis ce qui est ressorti de cette pandémie-là, mettons, à Montréal, c'est notamment le campement de tentes sur le bord de Notre-Dame. Puis, hey, moi, je m'en fous, je vais name drop drette là. Le dude de Radio-Canada, Patrice, le gars qui anime les débats électoraux à Radio-Can, là.
Ouais, Patrice Roy.
Patrice Roy, est-ce qu'il est pas bon? Man, j'ai regardé un de ses reportages où il se promenait au campement de sans-abri. Puis la première question, ça avait l'air sorti d'un sketch pas bon, genre. Puis il faisait juste comme salut, hein, salut, t'as-tu des problèmes de consommation? Puis c'était juste genre, hey man, comme, à quel point t'es poche? À quel point t'es poche? Puis t'es comme, toi, tu as une idée en tête, c'est juste comme, moi, j'ai vraiment un fil conducteur que je veux donner à mon reportage, slash mon entrevue, c'est de dire que les gens qui sont au campement Notre-Dame, c'est tous des gens avec des problèmes de consommation. Puis il a demandé ça à tout le monde. Puis j'étais juste comme, écoute, je suis pas à Radio-Can. Pour l'instant, regarde, j'ai un micro, puis ça s'en va sur SoundCloud, cette histoire-là. Mais je dis juste que si tu vas voir ce campement de sans-abri-là, ce serait vraiment intéressant de juste comme, poser des questions genre, hey man, comme toi, t'avais-tu une job? C'est-tu à cause de la pandémie? Qu'est-ce que tu penses du marché immobilier à Montréal? Est-ce que tu as déjà eu un logement? Qu'est-ce qui fait que tu es dans la rue, toi? Pas genre, tu sais, maintenant, il y a un d'autre qui est genre, ouais, tu sais, comme moi, j'ai eu de la misère à me trouver un logement, justement, à cause de la pandémie, puis la crise du logement à Montréal. Puis là, tu sais, le gars est en train de fumer un joint. Puis Patrice, ouais, il est genre, ouais, puis t'as des problèmes de consommation aussi. Puis j'étais juste comme, dude, arrête! Genre,
Ouais, c'est bizarre.
je te l'enverrai au pire, mais c'était, j'étais décalissé, j'étais genre, peux-tu plus pousser, genre, cette
Ouais, une tête.
histoire-là, genre?
Ouais.
Comme, les gens dans la. Puis ça, c'est le mythe des personnes en situation d'itinérance. C'est. Puis c'est le même mythe qui est poussé, par exemple, en Californie puis à San Francisco. C'est les gens en situation d'itinérance, c'est des gens avec des problèmes de consommation. Ça, c'est un mythe. Parce que, oui, il y en a, puis probablement que le pourcentage de ces personnes-là est plus élevé que dans la population, dans les personnes qui sont dans la rue. Mais c'est pas vrai que la quasi-totalité ou la totalité des gens qui sont dans la rue, notamment à ce campement-là, ou à Montréal, ou ailleurs dans le monde, c'est parce qu'ils ont des problèmes de consommation, tu sais.
Ouais, puis c'est vrai que c'est pas l'ensemble des personnes qui ont des problèmes de consommation qui sont dans la rue, puis tout ça. Puis peut-être à l'inverse, mais c'était bizarre un peu la manière dont tu l'as amené, mais c'est peut-être aussi que son but à Patrice Roy, c'était justement de montrer le contraire, tu sais, parce que quand je me rappelle, quand je disais, j'avais lu un article de ça dans la presse.
Sur l'itinérance, ça, ou sur Patrice Roy?
Non, ouais, c'est ça. Sur Patrice Roy. Non, mais sur le campement, sur la rue Notre-Dame, en fait.
Puis, ouais, c'est quoi qu'il disait?
Il disait qu'il y avait comme un certain ordre quand même qui avait été établi dans le campement. T'sais, il y avait des gens qui s'occupaient principalement, par exemple, de la nourriture pour tout le monde, etc. Puis ce qui semblait dire dans l'article, c'est qu'il y avait une espèce de contrôle, en quelque sorte, qui était fait dans le campement. Non pas qu'on empêchait les gens de consommer, mais qui demandait par exemple de... c'était pas un truc qu'ils voulaient encourager. C'était comme, si tu fais ça, tu fais ça tout seul, dans tes affaires, mais on veut pas avoir de l'air de gros... On veut pas que le campement, ce soit plein de gens qui... En tout cas, c'est pas clair ce que je veux dire, là, mais...
Non, mais je comprends. Ils veulent pas que...
Il y avait comme un certain ordre, quand même. C'était une question qui était discutée dans la... dans le campement même. Campement. Là, exactement. Puis peut-être que son but, c'était de montrer que c'était pas tant de monde que ça qui était... Mais en même temps, j'ai pas vu la vidéo, là. Mais c'est peut-être que le but, c'était de montrer qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, nécessairement, qui consommait. Mais de l'autre côté, c'est la manière dont tu approchais la question, c'est un peu spécial quand même.
Je trouvais ça... En tout cas, tu sais, je vais relativiser parce qu'à la fin, il y a un... C'est... En tout cas, overall, je pense que c'était vraiment... C'était pas un bon reportage, là, mais... tu sais, à la fin, il a parlé à un gars, puis là, il était comme, ouais, comme ici, justement, comme ce que tu viens de dire, c'est la consommation, ça se passe dans la tente, puis on n'essaie pas d'encourager ça, puis tout. Mais c'est juste que le problème, puis, tu sais...
Mais le problème, c'est de mettre l'accent là-dessus, en fait.
Ouais, mais...
Pas de parler des... Puis en même temps, tu sais, encore une fois, j'ai pas vu la vidéo, mais, tu sais, c'est quand tu mets l'accent sur un truc comme ça, c'est que ça fait croire, c'est que ça amène les gens à croire certaines choses, tu sais, puis alors que c'est pas nécessairement le cas, tu sais.
Ah ouais, puis toi, je pense à mes parents, mes oncles ou, je sais pas, ma tante qui écoute les nouvelles le soir, comme, hey, je sais pas si la chose que t'as envie de faire, le, tu sais, je sais pas, là, c'est un peu comme le monde, c'est le même principe que les gens qui vont écouter à Radio Poubelle dans leur char en venant de travailler, t'as envie de mettre ton cerveau off, là. T'as pas envie de te mettre en mode « Hey, yo, sens critique, man, je vais checker ce reportage-là, voir si c'est vrai, tu sais. » J'ai l'impression que si, je sais pas, tu reviens de ta journée de job, t'es à Montréal, t'as reviens de ta journée de job, tu checkes ça à la télé, puis t'es comme « Tabarnak, est-ce-tu, encore des crackheads sur le bord de Notre-Dame, blablabla, tu sais. » C'est juste comme... C'est peut-être pas ça son but, mais comme moi, ce que je retiens, c'est que genre la question que t'as envie de pousser, c'est comme « Ah, yo, vous avez tous des problèmes de consommation, genre. Mm-hmm. » À place de juste comme être en mode ouverture, je suis comme « Hey, full facile, man. » Juste genre « Hey, pourquoi t'es là, genre? Qu'est-ce qui se passe? » Puis si le gars, il dit genre « Hey, man, moi, j'ai des problèmes de consommation, puis il est conscient de ça, puis il veut t'en parler, puis il veut jaser de ça, ben c'est correct, tu sais. L'autre affaire, c'est que c'est un reportage de 3 minutes. Fait que, tu sais, je pense qu'il a parlé à pas mal plus que... Genre, l'affaire, c'est que je pense qu'il a parlé à pas mal plus, puis il y a eu un choix délibéré qui a été fait de mettre ces discussions-là, puis comme un ou l'autre, c'est lettre un peu. Mais, parce que, tu sais, clairement, les gens qui sont dans la rue à Montréal, c'est pas tous des gens qui ont des problèmes de consommation, là. Il y a des gens qui sont juste plus capables de payer leur loyer parce que, genre, un studio dans le fond du cul de Montréal, c'est rendu des fois 700-800$, tu sais.
Oui, c'est cher.
Ben ça, c'est parce que ça devient plus compliqué à soulever comme problème au grand écran, là.
Oui. Mais tu sais, il y a ça, puis je pense qu'aussi, il y a des... Puis je suis vraiment pas spécialiste de la question, mais il y a aussi des problèmes de santé mentale. Tu sais, c'est un truc aussi qui est très répandu au niveau des gens qui vivent dans la rue, là. Donc, c'est des fois, la santé mentale peut être liée à la consommation, mais pas nécessairement. Tu sais.
Mm-hmm. Souvent, la consommation, c'est... Ben, Joe Kicking m'avait dit ça, la consommation, c'est plus comme un symptôme de santé mentale, de problématique ouais. de santé mentale, tu sais. Ça découle de, c'est pas un qui cause l'autre, tu sais.
Mm-hmm.
Mais, ouais. En tout cas, excuse-moi, man, je suis parti sur un rant, mais c'est juste que j'avais vu ça l'autre jour, puis ça m'a...
Pas de stress.
Ça m'a torché.
Tiens à dire quand même que, habituellement, Patrice Roy, moi, je l'aime bien quand même, des fois, habituellement.
Ouais, hein?
Quand il fait les élections, je le trouve bon.
Et moi, je trouve que c'est là qui est le plus poche. Je sais pas, genre, comme, je dis pas qu'il y a pas...
Mais il fait sa job de journaliste, dans le sens que il est pas là pour... il est pas là pour amener un point de vue, puis tout ça, t'sais, lui, c'est, il fait parler les intervenants, puis après ça, c'est à nous, en tant que téléspectateurs, de juger la chose.
Mais je comprends, mais je trouve que, pour avoir écouté, mettons, pendant les... quand il couvre de la politique, je sais pas si c'est lui qui écrit ses questions, ou si lui, il est juste comme animateur, puis il reçoit un bloc de questions par du monde. Mais en tout cas, les gens qui écrivent ces questions, je suis comme dude. J'ai souvent l'impression que ça pousse pas assez loin. Tu sais. J'ai souvent l'impression que c'est pas la question, puis en fait, c'est pas les questions qui permettent aux électeurs de sortir de la soirée de manière informée de ce que les politiciens ont répondu. Tu sais.
Tu parles par exemple lors des débats, là?
Ouais, mettons, genre, lors des débats ou quand il animait la soirée électorale en 2016 de l'élection aux États-Unis, j'étais comme... J'avais de la misère avec les problématiques qu'il soulevait, tu sais.
Mm-hmm.
Mais ouais, en même temps, bon, ça, c'est deux registres, là, les élections provinciales puis les élections aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ne couvrent pas ça de la même manière, là. Mais, en tout cas, je vais arrêter de chier dessus, là.
C'est correct.
Je perds ça un rant, là, c'est juste, non, mais c'est juste de le voir faire ses interviews au camp des personnes en situation d'itinérance. J'étais comme, d'autres, qu'est-ce que tu fais, genre? C'est quoi tu veux pousser, là?
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, qui ça peut devenir choquant quand c'est comme pas clair, c'est quoi le but, puis c'est quoi... Puis quand si c'était pas clair, en fait, ça devient choquant quand ça donne l'impression que le but, c'est de pousser une thèse qui n'est pas nécessairement vraie ou en tout cas, tu sais, comme qui vient un peu... Tu sais, puis en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que ça vient un peu comme discréditer un peu tout ce qui s'est passé. Puis comme tu disais aussi, les autres raisons en arrière de ça qui sont pas mal plus importantes, ben pas qui sont plus importantes, mais plus que qui ont un impact tout aussi important plutôt, là, qui est la crise du logement, la pauvreté, etc., là, tu sais.
Ben ouais, mais tu sais, comme. Tu sais, je veux pas nécessairement tomber là-dedans, mais tu sais, c'est. Parler de la crise du logement, c'est. Si ce que tu veux faire, au final, c'est comme un petit docu que tu passes de 3 minutes et demie, 4 minutes, 5 minutes à Radio-Can pendant le téléjournal, ben là, ça devient un peu compliqué, tu sais. Tu peux pas vraiment couvrir la question, tandis que j'ai l'impression qu'il y a juste de comme problème de consommation, blablabla, gens dans la rue, mais comme tu peux faire de quoi que les gens font comme oh my god, c'est. Bon, en tout cas.
C'est plus tape à l'œil.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, là, mais en tout cas, c'est juste. Rendu là, c'est juste mon opinion. Puis regarde, manquerait, j'adonne.
À qui veut bien l'entendre?
À qui veut bien l'entendre? La voici, la voilà, mesdames et messieurs. non, man, je déconne. Mais, hey, ben, comme on a dévié de sujet tantôt, mais t'as dit que t'étais censé avoir des compés cet été puis que ça a été annulé?
Ouais, ouais, un peu.
Ça, dans le fond, comment que ça a joué sur ta santé mentale à toi, ça, en fait?
Je pense que ça a été c'est plus une question de motivation, puis tu sais, c'est un peu de la... Ben, tu sais, des fois, c'est un peu de la tristesse, dans le sens que c'est beaucoup de temps que tu mets, tu sais, puis je dis ça, puis Je ne suis pas personne qui met plus de temps. Je connais des gens qui s'entraînent bien plus que moi, là, mais t'sais, c'est que tu mets du temps, tu mets de l'effort, puis c'est aussi de la. C'est mentalement, tu y mets du tien, en sens que tu réfléchis à ce que tu vas faire, à ce que tu veux faire, à ce que tu dois faire, etc. Donc, ça prend beaucoup de place dans ta tête. Puis là, ben, du jour au lendemain, tu tombes dans une espèce de phase un peu. C'est pas clair, c'est très gris. Est-ce qu'il va en avoir? On le sait pas. Est-ce qu'il va pas en avoir? T'sais, on le savait pas trop. Fait que là, t'es comme, ben là, est-ce que je continue à m'entraîner? Je m'entraîne pas, t'sais, puis tout ça. Donc, fait que, tout pour dire qu'en fin de compte, je continue à m'entraîner, puis tout ça. Puis je pense que ça m'a permis de développer une motivation différente, t'sais, aussi, puis de voir la chose différemment, t'sais, de trouver plus de plaisir dans l'entraînement en soi, puis dans le dépassement de soi en soi, plus que, par exemple, dans le fait de je vais aller compétitionner, puis je vais me donner, là, tu sais.
OK.
Fait que, tu sais, ça a été, c'est ça, c'était plus au niveau, tu sais, ça a l'impact, la motivation. Cette motivation-là a été, tu sais, pas générale, mais je dirais plus globale que seulement, mettons, le sport. Mais sinon, tu sais, ça va, là, tu sais, c'était pas si pire que ça, là. Tu sais, je pense qu'il y avait des problèmes pas mal plus importants qui ont été causés par la COVID, là, tu sais,
Ah, c'est
que
clair.
ça, mais c'est sûr que dans mon univers, moi, ça a été un impact important.
Ouais, mais t'es. Ouais. Mais tu sais, c'est comme. Même si la COVID a causé des impacts majeurs et importants dans d'autres sphères, toi, dans ton cas, c'est super légitime que, mettons, les compétriathlons qui sont annulés, puis ta saison qui peut pas avoir un point culminant, c'est normal que ça l'affecte. Ben, j'ai l'impression que. Ça serait légitime que ça t'affecte, tu sais. Pas parce qu'il y a des choses pires que. Tu
Non, c'est ça.
sais, des humains, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Ouais, mais eux, c'est pire. Arrête de
Ouais.
chialer.
Ben, tu sais, c'est ça, en fait. C'est pas de dire que. Je veux dire, c'est. J'essaie juste de relativiser le truc en fait, en disant que, tu sais, pour moi, ça a eu un impact important sur moi. Mais après ça, cet impact-là, au niveau sociétal, ça reste minime au sens où est-ce que. Tu sais, ça peut avoir. C'est minime au sens où est-ce que, tu sais.
La société s'en fout de toi, dans le fond, c'est ça que tu es en train de me
Ouais,
dire.
c'est ça. Je suis un ombre. Nathan. Non, non,
Ouais,
mais c'est plus de
j'aime
dire que tu sais, ça a
l'imaginaire.
un impact sur peut-être la santé mentale des gens qui pratiquent différents sports. Mais après ça, tu sais, je veux dire, ça reste qu'on n'est pas décédé de ça. T'sais.
De la COVID ou du manque de
Ben,
triathlon?
du fait qu'on n'a pas fait de t'sais, du fait qu'on n'a pas fait de compétition, là, t'sais.
Ah, génial.
Ben,
C'est
en tout cas.
génial.
Pas ce que je sache, là, ça se pourrait, mais ça serait bien étonnant, là,
Ah
tu
ouais, man, t'imagines, le gars est genre. Il est tout primé, man. Il a les quadriceps gonflables là. Il est genre, moi, man, je te torque ça 1 minute et demie du kilomètre. T'aurais jamais vu ça, man. Finalement, il pète aux frettes parce qu'il est trop saucé, genre.
sais. On
Le
a
monde,
déjà
ils
vu
prennent.
ça.
Ben, le monde, ils prennent-tu la sauce au triathlon? Ou
Bonne
genre,
question. Je pense que ça
t'es-tu.
dépend de chaque personne, mais ben, en fait, c'est sûr, ça dépend de chaque personne. Je pense que généralement, non. Ça reste un sport qui est très.
Humble.
Mais je sais pas, humble, mais c'est surtout que c'est un sport qui est très axé vers le dépassement de soi. Tu en as certaines personnes qui compétitionnent pour gagner, tu sais, mettons une compétition. Fait que l'objectif est très différent à ce moment-là de je compétitionne contre moi-même puis je veux juste me dépasser moi, là, t'sais. Donc, je dirais que ça c'est sûr qu'il y en a des gens qui sont t'sais, qui peut-être sont sa sauce, mais c'est je pense pas que c'est une pratique répandue, mais en même temps, t'sais, je fais mes choses, mais dans le sens que je connais pas tout le monde qui fait du triathlon non plus, là,
Ben
t'sais.
non, non, mais tu sais, je veux dire, tu sais,
Mais je
mettons.
pense pas que c'est une pratique qui est énormément répandue, là, t'sais. Je pense
Ok.
que ça reste très, très minime, là.
Ok. Non, mais
Mais
je me
il y en a.
demandais, là, parce que tu sais, même quand on était plus jeune puis on faisait de la natation,
Ouais.
d'autres, t'as eu le dos de man que quand on avait quoi?
Ouais,
14
13 ans.
ans?
13 ans,
13 ans! Hey, mais je pense que
ouais.
lui, ouais, lui était peut-être un peu plus vieux, man.
Ouais. Non, il avait
13-14 ans.
12 ans, lui. qui avait un an de plus jeune que nous autres.
12 ans, le gars, il est... 12 ans, le gars, il est sa sauce, genre. Capoté.
Ouais. Ben, en tout cas, toi, tu disais que tu avais vu un truc qui avait confirmé. Moi, j'avais jamais vu ça, mais...
Ben, c'est parce qu'ils ont busté son coach. Ils ont busté son coach.
Ah, c'est ça.
L'été, ce qui s'était passé, c'est que, en fond, quand on était jeune, il y avait un kid de, comme, on faisait la natation, puis il y avait un kid de 12 ans qui avait eu, comme, 8 records canadiens en un été, peut-être, comme...
Ouais.
Damn boy, genre...
Puis il avait gagné plein de courses.
Deux, genre, comme 160 livres à genre 12 ans. L'année d'après, son coach se fait buster avec comme un sac avec genre des stéroïdes ou comme. L'affaire là qui fait que qu'ils prennent au Tour de France aussi, là, qui fait que tu as plus de globules. Tu sais, les globules blanches ou les globules rouges?
Le PO, tu parles? Au niveau de la production des globules rouges?
Ben, laquelle des globules qui amène plus d'oxygène dans ton corps, c'est les rouges?
Les rouges.
Ben, c'est ça. Et il y avait le coach de ce dude-là, il y avait un sac plein de ça, genre.
Ouais, non, c'était bien bizarre cette situation-là parce que cette personne-là avait gagné beaucoup de courses, avait fait beaucoup de records et du jour au lendemain, il n'y a plus aucun record. Puis, on ne sait pas trop pourquoi. Ça n'a pas été dit clairement.
Ben, dis, parce qu'en même temps, l'autre affaire, c'est genre, ouais, t'enlèves les records, mais en même temps, c'est ça, c'est un fucking kid de 12 ans, man.
Ouais, c'est intense.
C'est clair, ça vient. Comme, j'ai tellement de la misère à croire que ça vient de lui, genre. Tu sais, que le kid de 12 ans, il est genre, ouais, tu sais quoi, coach? Moi, je vais être le meilleur athlète de 12 ans qui a jamais existé au Canada. Shoot-moi! Shoot-moi!
Oh, ça serait...
c'est genre, j'ai l'impression, c'est comme, yo, c'est soit les parents, soit le coach, ou un mix des deux, puis c'est fucking wack, là.
Ouais, je pense que, tu sais, surtout à cet âge-là, à un moment donné, c'est comme, ça serait bien étonnant que ce soit, ça se pourrait, là, tu sais, je veux dire, ça se peut, mais ça serait...
Que ça vienne de lui, ça?
Exact, ouais. Ben... Les chances sont minimes, tant qu'à moi, mais ça se pourrait.
Hey, le gars, il avait tellement perdu la shape l'année d'après.
Ouais, mais il était bon encore. Là,
il était bon parce que, ouais. C'est pas à cause des roids que t'es rendu 6 pieds 2, tu sais. Ouais, veux ouais. Pas, bon. T'es pas 12 ans 6 pieds 2, mais t'es 13 ans 6 pieds 2, fait que t'es quand même plus grand que tout le monde, tu sais.
Ouais.
Mais, si je me rappelle, il avait aminci pas mal, genre. Puis en fait, tu l'avais battu comme à deux races ou trois.
Je me rappelle. Je pense pas. Je pense qu'il avait gagné quand même les années d'après. L'année d'après, en tout cas, là. Mais tu sais, c'est. Je sais pas si t'as vu. Il y avait un documentaire là-dessus sur Netflix, là, Icarus, là, où est-ce qu'il parle de la situation des Russes puis tout ça.
Non, ben j'en ai entendu parler, mais non. Shoot.
Ouais. Mais c'est vraiment bon. En tout cas, c'est vraiment intéressant, là. Mais. Tu sais, quand tu prends des substances pour aider à performer, il en reste que tu peux pas juste prendre des substances puis pas faire l'entraînement qui suit. Tu sais, dans le sens que
ah, c'est clair.
Si tu t'entraînes pas fort puis tu prends des substances, ben tes substances, ils vont pas vraiment avoir d'impact positif. Tu sais, donc, il en reste que cette personne-là s'entraînait aussi fort, sinon même, tu sais, peut-être qu'il s'entraînait plus fort que nous, tu sais, mais... C'était juste vraiment bizarre que du jour au lendemain, le gars avait comme 10 records canadiens, puis là, il n'y en a plus. Tu sais, c'était...
C'est bon, ça. Man.
Et ouais, c'est ça.
C'est genre...
On avait bien ri hein, à ce moment-là.
Oh, ouais, mais il y avait un peu de... Avec du recul, il y a toujours un peu de jalousie internalisée, là.
Ouais.
Je vais en parler.
Ça, c'est sûr.
Je vais en parler moi pour aussi. Moi, là. Ouais. Surtout, moi, je fais... En plus, à 12 ans, je faisais genre... Je faisais aussi genre 6 pieds, puis j'étais genre, là, le Christ, il fait 6 pieds 2, man. C'est pas vrai que... Non,
deux pouces.
Ouais, c'est ça. Mais d'autre, le plus drôle de l'histoire là, c'est que même moi, à cet âge-là, des fucking, il y a du monde qui pensait que j'étais ces roids.
Ben, tu sais, clairement, mais. Puis, je veux dire, l'affaire, c'est que c'est un âge qui est. C'est traite en tabarouette parce que. À cet âge-là, c'est comme. T'es bon. T'es bon parce que t'es bon. Ça, tu sais, je veux dire. Il y a comme trois options. T'es bon parce que t'es bon. T'es bon parce que t'as eu une poussée de croissance au bon moment.
Ouais.
T'es bon parce que t'es bon, mais t'as eu une poussée de croissance aussi un peu avant tout le monde.
Ben, slash le moment où t'es né dans l'année. Là.
Aussi, ouais,
T'sais, moi,
ça c'est
j'étais
une
tout
autre affaire,
le temps.
là.
Tu sais, là, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, moi, la saison a commencé, puis je suis né en septembre. Fait que, genre, sais, n'importe quelle saison qui commence en septembre, moi, je suis né en septembre, puis au final, je suis comme. Je commence cette saison-là dans une catégorie d'âge, puis je suis déjà comme une année de pic, genre. En tout
Ouais,
cas.
c'est ça. Ben, tu sais, on était avantagé pour ça, pour quand arrivaient les compétitions en juillet, parce qu'on était encore dans le bon range d'âge, tu sais, comparé à d'autres personnes avec qui on nageait, qui, eux, avaient leur fête, par exemple, en mars, donc, allaient avoir, par exemple, 14 ans à la compétition, tandis que nous, on avait 13 ans, tu sais.
D'autres, ça, c'est. Mais ça, c'est fucké, man. Il y avait un autre. Ça me fait. Il y avait un autre truc, là. Il y avait un auteur américain qui avait écrit là-dessus, là. C'était genre. À quel point, comme 70% des joueurs de la Ligue nationale de hockey sont nés entre janvier puis mars, genre. Parce
Ouais.
que t'es. Ouais, ben parce que t'es tout le temps. Comme les saisons, ils commencent en janvier, puis là, t'es tout le temps drafté en premier. Fait que toutes les années, tu joues comme 10 matchs de plus. T'as un training, t'as un camp de plus, t'as une sélection de plus, puis tout ça
Ouais.
au bout d'un certain nombre d'années, ben tu sais, t'as plus de training, t'as plus de camp, t'as plus d'opportunités. Toi, t'es au prime de ta forme quand il y a les tryouts au début d'année, puis il y a du monde qui viennent te. Il y a des
Qui viennent avoir
éclaireurs.
ton âge.
Ouais, c'est ça. Il y a des éclaireurs de team qui viennent, genre. Non, c'est fucké. Mais
Ouais,
j'ai
je comprends ce que
juste.
tu veux dire.
Genre, le sport. Comme. Le sport, quand t'es jeune, je trouve que c'est un. Avec du recul, je trouve que c'est un couteau à double tranchant.
Ouais, je pense que j'ai cette réflexion-là aussi de temps en temps, tu sais, c'est. Tu sais, je veux dire, c'est des super. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, si j'avais à refaire, à revivre cette expérience-là, moi, je la revivrais, tu sais. Mais
Non,
reste
absolument.
que pendant, tu sais. Puis moi, j'ai. Puis honnêtement, je veux dire, je suis pas la personne non plus qui a la plus grande carrière, puis la plus longue carrière. Tu sais, moi, ça a bien été quand je nageais, puis j'étais. Tu sais, j'avais des bonnes performances. Mais j'ai pas nagé jusqu'à 22, 23 ans non plus. Là. T'sais, moi, j'ai arrêté, j'avais 16, 17 ans pour. Parce que j'étais tanné pour différentes raisons. Mais il en reste que ces années-là, c'était des années intenses, puis des années où est-ce que la seule affaire dans ta tête, c'est ça. Là. T'sais, tout tourne autour de ça, puis c'est fou. Là. T'sais, c'est
Mais
comme.
c'est fucké. C'est
Ouais,
ça que
c'est
je veux
ça.
dire qui est fucké pour un
Ouais.
si jeune âge. T'as 12 ans, ton cerveau est en formation, puis on valorise cette obsession-là à ce point-là. Moi, c'est ça qui me. C'est ça qui me buzz en rétroactive de. En rétroaction de ces années-là. C'est genre. Ouais, comme. C'est nice d'être obsédé par ça. Puis c'est bénéfique, puis c'est valorisé et valorisant. Quand tu as des résultats. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr sur comme la formation de ton cerveau et les processus mentaux qui se produisent à cet âge-là, d'être autant dans une zone d'obsession souvent que c'est positif pour ta tête, genre.
Ouais, ben, honnêtement, je sais pas. Tu sais, je pense que ça a quand même ses points. C'est quand même bénéfique sur certains trucs. Tu sais, ça te permet de, comme, en te concentrant là-dessus, puis si tu veux faire ça, ben, il faut que toutes les choses suivent en arrière, tu sais, l'école, etc. Donc, tu sais, au final, c'est que tu deviens ce que tu fais à l'école, tu essaies de le faire bien et tout, parce que si tu veux nager, si tu veux pouvoir te concentrer sur la natation, ben, il faut que. D'école suivent bien là, t'sais, en arrière, mais. Puis tu sais, c'est un truc qu'au Canada, on fait, puis qui est de moins. Puis que dans d'autres pays, ils font plus, puis qui essaient de plus encourager, qui est la spécialisation des jeunes dans des sports très rapidement. T'sais. C'est un truc qui, de plus en plus, est bien, pas controversé, mais on vient, on a cette thèse-là, en fait, de dire que plus tu es jeune, puis plus tu te concentres sur ce sport-là rapidement. Plus tu as de chances de devenir bon. Cette thèse-là, elle est de plus en plus, en fait, elle est infirmée.
Démenti. Ouais,
Ouais,
OK.
c'est ça. Ce qui semble plutôt ressortir de la science, c'est que ce qui est mieux, c'est que quand tu es jeune, mettons, adolescent, puis tout ça, c'est de faire plusieurs sports puis développer plusieurs habiletés, plusieurs différentes habiletés. Que ce soit, par exemple, si tu joues à. tu fais du baseball, par exemple, mais tu vas développer des habiletés de lancer, attraper, tu sais, les yeux, etc., tu sais, la vitesse de réaction, tu sais, tu vas tout développer ces habiletés-là. Tandis qu'à natation, tu développes, tu sais, je veux dire, ton endurance, ta force physique, tout ça. Puis, au final, souvent, je pense, si je ne me trompe pas, c'est en Norvège ou en Suède qui essayent vraiment plus d'encourager ce type de choses-là. Puis, dans le coin de 16-17 ans, là, les athlètes, ils se spécialisent dans des sports particuliers. Puis ça semble, en tout cas, être meilleur pour, un, la motivation des jeunes, puis deux, aussi, au niveau du développement des athlètes. Ça fait des athlètes qui sont plus complets puis qui ont plus de chances de bien performer en ce moment-là, tu sais. Parce que ben, moins de faiblesse en quelque sorte. T'sais.
Ben clairement. C'est aussi, genre, j'ai l'impression que c'est aussi valable pour, par exemple, ta physionomie. Tu sais, dans le sens où comme ouais. Je veux dire, ben, tu sais, nous, on a fait de la natation, ce qui est relativement complexe comme sport. Puis ça travaille pas mal tous les groupes musculaires. Puis c'est pas. Tu sais, c'est pas. Jusqu'à un certain niveau, c'est pas si dommageable que ça pour tes tendons. T'sais. C'est sûr que si tu commences à jouer au baseball en innocent, puis t'es pitcher, puis tu lances 500 balles par jour à 11 ans, ben ça se peut que tu te fendes l'épaule, puis la coiffe des rotateurs à 13 ans. T'sais. Mais même là, t'sais, moi, je me suis bousillé les épaules assez rapidement, puis tout. Mais t'sais, j'ai l'impression que justement.
C'est parce qu'on mangeait pas comme faux non plus.
Dans ouais, le sens ça, que c'est l'autre affaire.
C'est, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là, t'sais. Si ta technique n'est pas bonne, mais ben nécessairement, si tu répètes un mouvement et que la technique n'est pas bonne, mais ça l'entraîne des blessures puis ça a des conséquences négatives après. Là, tu sais.
Ouais, clairement. Mais d'un autre côté, j'ai juste l'impression que.
Excuse-moi.
Ben, c'est ça, j'ai juste l'impression que si tu fais plusieurs sports aussi, tu travailles ta musculature et ta physionomie. Puis j'ai pas le mot en français, mais ton positionnement dans l'espace, tu sais, de manière différente dans tous les sports que tu vas faire. Puis ça te permet de. J'ai l'impression que, dans un sens, ça te permet d'être plus protégé de certaines blessures, puis d'une certaine usure.
Mais ça, c'est sûr, parce que, tu sais, en natation, on le voit. Puis dans d'autres sports aussi, mais quand tu fais un sport particulier, il y a tout le temps des trucs, tu sais, je veux dire, le sport va faire en sorte que tu vas travailler souvent plus certains muscles que d'autres, fait que ça crée des déficits en quelque sorte musculaires, si je peux dire, mais pas des déficits, mais plutôt des faiblesses musculaires. Puis ces faiblesses-là, si tu ne les travailles pas de d'autres manières, donc souvent, par exemple, c'est la musculation. T'sais, on va entraîner ces muscles-là pour qu'ils soient au même niveau. Mais si tu ne fais pas ça, c'est, à un moment donné, tu vas avoir des blessures. Donc, quand tu te spécialises pas sur un sport et que tu fais plusieurs sports qui développent plusieurs muscles différents, ben, clairement, ça a pour impact d'éviter le. Tu as moins de chances peut-être d'avoir ces faiblesses-là musculaires qui vont se créer. T'sais.
Non, clairement. J'ai juste.
Tout pour dire que je pense que tu as raison. C'est ça que je veux dire.
Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit tout pour dire que je suis en accord avec ce que tu dis. Là,
merci, c'est tout ce que je recherche, la validation des pairs.
C'est ça
que
je pensais.
C'est ma, comme
merci, bonne journée.
Mon seul objectif dans la vie, c'est d'avoir raison. Puis les seuls invités que je vais avoir sur le podcast, c'est des gens qui me valent.
En fait, il va y avoir beaucoup de psychologues.
je vais amener Patrice Roy, bro.
Ouais, c'est ça.
Ben non, man, mais je sais pas. C'est juste que moi, c'est beaucoup, tu sais. Je me questionne beaucoup au niveau santé mentale dans les dernières années pour avoir eu mon lot de problèmes d'anxiété / de dépression, tu sais. Puis une des affaires qui. Puis d'autres gens dans mon entourage aussi, par exemple, tu sais, ce qui revenait beaucoup, c'est ça, c'était l'obsession si jeune, à quel point c'était valorisé, puis comme. À quel point, si tu es une personnalité anxieuse / plus enclin à la dépression, ben ton cerveau, il se compartimentalise, puis comme c'est correct d'être obsédé, puis c'est correct d'être dans une sphère où tu penses juste à une affaire. Tu sais, sauf que, imagine-toi à quel point ça fait pas bon ménage quand tu as des problèmes anxieux, tu sais.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Tout ton cerveau, il est habitué puis il est valorisé d'être obsédé à propos de quoi? Il faudrait donc pas que tu commences à buzzer sur des affaires complètement irrationnelles dans ta vie, tu sais.
Mm-hmm.
Puis j'ai l'impression, j'ai une couple de discussions, tu sais, justement, avec des gens qui ont nagé plus jeunes puis que maintenant, ben pas à cause de ça, absolument pas, mais qui tu sais, maintenant, ils sont conscients de leurs problèmes d'anxiété puis de dépression puis tout ça. Puis c'est juste comme... On avait tous eu cette espèce de réflexion-là de genre, ouais, tu sais, comme l'obsession aussi jeune. Pas sûr si c'est tant recommandé, tu sais.
Ouais, puis, tu sais, moi, j'ai pas, je pense pas avoir, j'ai mes petits, comme tout le monde, mes petits problèmes d'anxiété à moi, là.
Tout le monde a ses lacunes, même.
Puis, mais, tu sais, moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que quand j'ai arrêté de nager, mon plus gros problème, ça a été de retrouver moi qui j'étais en quelque sorte, dans le sens que je me définissais par ce sport-là, puis ma vie tournait autour de ce sport-là. Donc, quand tu prends la décision d'arrêter cette partie-là de toi qui est très importante, ben là, c'est que tu chavires, ou en tout cas, tu tombes dans un vide. Tu es qui? Je suis qui? Je suis comment les autres me voient aussi? T'sais, moi, c'était ça. Là, c'est aux yeux de tout le monde, j'étais... j'étais Simon le nageur en quelque sorte, t'sais. Puis là c'est comme là je nage plus, fait c'est qui c'est ça qui a été dur pour moi, ça a été de me retrouver puis de retrouver qui j'étais, t'sais. Ben pas qui j'étais, mais plutôt de c'est quoi mes autres intérêts, c'est quoi les autres choses que j'aime et tout ça, puis après ça me définir par ça aussi, tu sais.
Okay.
Donc, ça a été une démarche. Ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Puis une chance, moi, je l'ai fait accompagner. Donc, moi, je suis allé voir un psychologue. Puis cette personne-là m'a vraiment aidé dans ma vie par la suite. Tu sais,
ça tu as eu la chance de ne pas avoir.
À vivre ça tout seul.
Ben, non, mais oui. Mais j'ai l'impression que toi, dans ta tête, c'était pas stigmatisant d'aller voir un professionnel en santé mentale, tu sais.
Ouais,
contrairement à beaucoup de gens.
La grosse différence, c'est que moi, quelques années avant, donc 2 ans avant, j'avais eu un problème au niveau...
érectile.
Ouais, c'est ça. Ouais, à 13 ans, je bande plus.
Sick!
Mais non, c'est surtout en fait que j'avais des problèmes de performance à la natation. C'est important de préciser. Des problèmes de performance à la natation, puis ça m'avait chaviré, en fait. Donc, je comprenais pas ce qui se passait, puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'est ma coach, avec tout son tact, qui m'a ramassé, puis qui m'a dit, là, faut que t'ailles voir quelqu'un. Donc là, j'ai dit, oui, madame, puis j'allais voir quelqu'un.
Là, tabarnak, Simon, là!
C'est pas exactement crise ça, de là, cul. C'est quelqu'un de très spécial pour moi, mais sur certaines choses, elle avait son caractère, disons-le. Mais ouais, fait que moi, elle m'a encouragé à aller voir un psychologue pour m'aider à remettre les choses en perspective, puis pas remettre les choses en perspective, mais pouvoir me réaligner sur la voie de la performance, en quelque sorte. Ouais. Puis cette personne-là a eu un impact différent. En fait, ça m'a permis de relativiser. Pas l'importance de la natation, mais aussi de voir c'est quoi les autres choses que j'aime, puis tout ça, puis l'importance d'aimer d'autres choses, puis d'avoir des intérêts autres que seulement la natation. Puis après ça, quand j'ai décidé d'arrêter de nager, c'est moi que, tu sais, vu que j'avais déjà vu cette personne-là, puis j'avais aimé mon expérience, mais pour moi, c'était important de refaire ce processus-là avec lui, tu sais, parce que je sentais le besoin, en fait, d'être accompagné là-dedans, parce que je me sentais dans le vide. Vraiment ça. C'est vraiment... c'était un vide en quelque sorte. C'était vraiment un vide.
Mm-hmm. Mais c'est bon. Contrairement à...
Ah, je pense que oui. Tu sais, moi, ça fait toute la différence. Dans le sens que ça m'a permis de bien vivre le tout. Puis tu sais, au final, souvent, c'est qu'on a peur... je sais pas si on a peur de dire, mais on dit pas souvent ça, mais c'est un deuil, tu sais. C'est comme... c'est vraiment, c'est fou. Tu passes à travers, puis cette personne-là, moi, m'a aidé, puis aussi m'a aidé à cheminer dans ce que je voulais faire dans la vie, puis tout ça. Donc, ça a été extrêmement bénéfique.
Mm-hmm. Ben non, man, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va te parler de ça. Il n'y a personne, man, qui va te parler de ça comme un deuil. Puis après, t'as Lucas Théâtre qui a sorti une étude il y a 3 ou 4 ans, je pense,
okay.
sur les athlètes qui finissent leur saison universitaire, puis c'est leur dernière saison. L'année
Okay.
d'après, il y en a comme 45% qui font des dépressions sportives puis qui ont des problèmes d'anxiété, genre.
Okay.
D'autres, c'est ouais. Faudrait que je te retrouve ça aussi. C'est assez insane.
Ouais.
Puis c'est juste comme, ben, comme. Puis après, t'es comme, ben ouais, il n'y a jamais personne qui t'a informé que, oui, hey man, ça se peut que, dans le fond, t'ailles un deuil. Puis que de quoi que tu fais super passionnément avec une certaine obsession, 25 à 30 heures par semaine, hey, mais ça va te causer un vide. Mmh. Essaye de pas juste fumer du pot puis boire de la bière.
Mais c'est un truc que. Il avait déjà fait un reportage, ben, tu sais, souvent dans le coin des Olympiques, là, ils vont voir les infrastructures sportives au Canada, puis tout ça.
Ouais.
Et, c'est un truc qu'il avait déjà, je pense, avec l'équipe de patinage artistique, pas à patinage artistique, voyons donc, de patinage de vitesse de courte piste. Il y avait un psychologue qui était comme assigné à l'équipe, là. Puis cette personne-là travaillait avec les athlètes, puis tout dépendant où est-ce que tu étais rendu dans ton cheminement de carrière sportive, le travail était différent, mais il parlait beaucoup de ça, de l'après-carrière, de qu'est-ce qui va arriver, de comment t'aider, puis comment à travers cette après-carrière-là. Puis je pense que tu as été aux Olympiques ou que tu as fait ça de manière régionale ou provinciale, l'impact va être. C'est sûr que ça ne sera pas le même impact, mais quand tu vas décider d'arrêter, ça va être majeur dans ta vie parce que tu mettais beaucoup de temps là-dessus et c'était important pour toi. T'sais, c'est ça le point d'ancrage, en fait. C'est le fait que ça avait une grande importance pour toi. Ce n'est pas nécessairement au niveau auquel tu performais qui était. C'est ça. T'sais, en fait, c'est comment tu voyais le sport, puis surtout. C'est quoi l'importance qu'il y avait pour toi, ce sport-là? T'sais, c'est ça que ça va influencer beaucoup ta retraite par la suite. Là,
mm-hmm. Mais c'est tellement une bonne initiative, je trouve. Le psy qui était là, surtout que c'est les Olympiques, on peut présupposer que pour certains, c'est leur dernière
exact.
Leur dernier truc. Je sais pas, là, peu importe ton âge, en fait, tu es aux Olympiques, il y a des bonnes chances que genre. Ça soit ta dernière compé, man. T'es aux Olympiques, t'es comme yo, fuck off. Après, moi, c'est. Deal's done, man. Puis t'es content. T'es content d'arrêter, t'es content de finir. Moi, quand j'ai arrêté, j'étais content. J'étais comme ah, yeah, man. Je suis juste plus dans. J'ai comme fait un retour, là. Après, j'irai arrêter de nager. J'étais comme ouais, fait du bien d'arrêter de nager. Je suis dans pour ça. Tu sais, je vais faire autre chose. J'ai commencé à avoir d'autres centres d'intérêt. Puis. Hey man, turns out que 2 ans après, j'étais genre. Ouais, j'ai d'autres champs d'intérêt que j'ai jamais été autant capable de canaliser que la natation parce que. Je sais pas, j'ai jamais été. C'est un peu compliqué de canaliser, je sais pas, mon intérêt pour la politique fédérale, provinciale, internationale de la même manière que tu canalises un sport, là. Il faut que tu trouves des moyens, puis clairement, je ne l'ai pas fait. Fait que, tu sais, des fois, moi, ça a créé des défaillances dans ma tête sur comme mes intérêts, mon deuil, comment tu vis cette espèce d'après-là. Tu sais, c'est super bizarre. Puis, j'ai l'impression que c'est comme. Il n'y a pas de playbook, man, sur ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a
non.
Plus de gens. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont touchés par cet après-sport. Puis, en fait, même, on parle de sport parce que nous, on a fait du sport, là, mais honnêtement, je sais pas.
C'est une passion. Du moment
ouais,
que c'est
après passion-ish, genre.
C'est ça. Quand tu arrêtes une passion par laquelle tu te définissais puis qui avait une importance vraiment très, très grande, ça a des impacts psychologiques par la suite, t'sais. C'est pas difficile pour tout le monde, mais c'est juste que clairement, ça va avoir des impacts par la suite. T'sais. Puis nous, on est chanceux parce que le sport qu'on faisait, c'était un sport qui t'avais pas de contact. On a pas eu de commotion cérébrale, des choses comme ça.
Thank God. Sport,
après ça, tu mêles d'autres trucs là, tellement intenses que comme hey, la fin, c'est
ouais.
Ça devient vraiment très, très intense.
Toi, à la limite, j'ai l'impression que tu aurais pu te prendre 2-3 commotions cérébrales, man. Mais moi, man, Pas sûr que je serais rentré à l'université après une.
Je sais pas. En tout cas, je suis content de pas t'en avoir. Moi, j'étais gardien au soccer. Hein, fait que, les balles dans la face. Là.
T'es pris une coupe de ballon dans le nez, man.
Oh, ouais.
Ouais, mais laisse-moi te dire que t'aimes mieux avoir un ballon de soccer dans le nez, man, que t'as te mangé une épaulette, là.
Ah, oh, ouais. Ça, c'est sûr. C'est juste que ça se peut que j'aille eu
Des micro-commotions. T'as des petits bouts de cartilage qui ont monté dans ton cerveau, genre. De ton
ouais,
nez,
exact.
Là, dans la tête, genre.
J'ai un nez fucké. C'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça que je t'en ai dire. Ben, écoute, man, ça m'a fait plaisir de faire ce podcast-là avec toi.
Yes, c'était bien le fun. J'espère que les gens. Tu sais, on a comme. On n'a pas dérapé, mais on a un peu montré. Je pense que dans le podcast, les gens peuvent voir un peu ce qu'on veut faire avec le truc d'actualité, puis tout ça. Puis ça va être cool. Ça va être vraiment cool, je pense.
Si je tiens à dire que moi, je vais essayer de sortir un podcast par semaine où je vais amener toutes sortes d'invités. Puis c'est ça, Simon, ça va être mon co-animateur pour les revues d'actualité. Puis si vous avez écouté jusque-là, vous êtes fucking nice. Merci, c'est cool. Puis,
Ouais,
Simon, il dit merci parce qu'il veut qu'on se fasse écouter sur notre shit aussi.
Ouais, ben on l'a dit au début, je cherche du fame internet. écoutez-le. Ouais, peine.
Hey, merci tout le monde d'avoir été jusque-là. Puis bonne soirée, à la prochaine! Ou bonne journée.
Bye bye!